Le débat du jour.
Adrien Delgrange.
Bonsoir à tous. À l'écoute d'RFI en direct de Paris, soyez les bienvenus, installez-vous, c'est le débat du jour.
RFI.
Quand les prix augmentent, nous sommes tous concernés. Seulement, l'histoire montre qu'il y a des perdants et des gagnants, que nous sommes inégaux face à l'inflation des prix. Dans une économie mondiale largement affectée, chamboulée, questionnée par la pandémie de Covid, tous les indicateurs montrent que l'inflation est là, que l'augmentation durable des prix est bien présente et qu'il va falloir même s'habituer à vivre avec. L'inflation, est-ce un danger ou une opportunité? C'est le débat du jour.
RFI.
Avec trois invités ce soir en studio, Anne-Sophie Alsif, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être présente. Vous êtes chef économiste au BDO, cabinet de conseil économique et professeur d'économie à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. À côté de vous, Anne-Laure Delatte, bonsoir.
Bonsoir.
Merci. Économiste, chercheuse au CNRS, rattachée à l'Université Paris-Dauphine et puis par ailleurs autrice d'un podcast intitulé Un shot d'écho. En face de vous, Christophe Blot, bonsoir.
Bonsoir.
Merci également d'être présent. Vous êtes économiste à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes également professeur associé à Paris-Nanterre. Alors, avant de voir les avantages et les inconvénients de l'inflation, comment tout d'abord expliquez-vous cette période durable d'inflation planétaire avec vous, Marie-Laure Delatte ?
Alors, Anne-Laure.
Anne-Laure, pardon.
En fait, les prix, c'est une variable, c'est une des variables les plus importantes en fait en économie, et c'est le fruit de ce qui se passe sur un marché entre l'offre et la demande. Donc, il faut peut-être commencer par ça et essayer de comprendre pourquoi en février de cette année, on n'anticipait pas du tout cette inflation. Finalement, on s'est un peu tous trompés là-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il faut aller regarder ce qui s'est passé du côté de l'offre et de la demande. Bah, du côté de la demande, pour commencer, c'est vraiment hyper simple, c'est que la plupart des gouvernements ont énormément soutenu par des dépenses publiques pendant la crise pandémique, et donc les consommateurs ont plus, en moyenne, gardé leur pouvoir d'achat. Il n'y a pas eu d'effondrement du pouvoir d'achat. Par le chômage partiel, voyez, donc on a vraiment protégé la capacité à faire face à cette crise.
Avec les politiques publiques.
Voilà. Et du côté, donc ça n'est pas plus qu'avant, c'est peut-être même un petit peu moins qu'avant, mais en tout cas c'est quand même plutôt protégé. Et du côté de l'offre, alors là il y a eu des disruptions massives parce que cette crise pandémique, c'est un choc qu'on ne connaissait pas, on ne pouvait pas l'anticiper. Et vous avez dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un produit, il est un produit manufacturier, il est produit dans 15 pays. Eh bien là, vous avez eu plein d'interruptions à cause de confinements dans certains pays, surtout à cause de transports maritimes qui n'ont pas fonctionné pendant un moment. Voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que l'offre a été extrêmement perturbée. Et donc, en fait, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où vous avez une demande qui est qu'on a retrouvé. En fait, on a retrouvé le niveau de demande d'avant la crise et vraiment très rapidement. Donc, les consommateurs sont prêts à consommer. Et en revanche, vous avez des entreprises qui ont plein d'interruptions dans leur chaîne de valeur, leur chaîne de production.
Christophe Blot, cette inflation des prix, c'est uniquement l'effet de la pandémie de Covid ?
C'est une des conséquences, effectivement, avec cette reprise mondiale qui est très forte et qui a alimenté notamment, en fait, une forte reprise de la demande pour l'énergie. Et donc, un des facteurs derrière cette augmentation de l'inflation, notamment, c'est l'augmentation du prix du pétrole. Ça contribue assez fortement à cette augmentation de l'inflation qu'on observe. Ensuite, il y a les facteurs, effectivement, liés à des goulots d'étranglement qui vont faire en sorte que le coût aussi du transport va augmenter. Et aujourd'hui, l'économie mondiale fonctionne de façon internationalisée avec des entreprises qui importent un certain nombre de composants et qu'ils réintègrent dans leur processus de production. Et aujourd'hui, on a vu avec effectivement le coût des conteneurs qui traversent les océans qui a fortement augmenté et qui se répercute également sur les prix. Ensuite, il peut y avoir des facteurs qui sont très très spécifiques dans la même dans la nature de la demande. C'est-à-dire que cette reprise, elle est là, mais cette reprise, elle a aussi une dimension assez particulière puisque notamment, c'est très vrai aux États-Unis, c'est une forte reprise sur les biens et un peu moins sur les services parce que effectivement, il reste un peu quelques contraintes sur sur les services, sur l'hôtellerie, la restauration, les services de loisirs où les ménages peuvent être réticents à avoir la même consommation de ces services qu'avant. Et donc, par contre, ils ont réorienté tout leur pouvoir d'achat, enfin, une grande partie de ce pouvoir d'achat, sur la consommation de biens. Et ça, ça crée aussi une augmentation assez forte de quelques prix très spécifiques. Et puis, le dernier point qui peut aussi jouer, c'est des facteurs très, très particuliers comme les variations de taux de TVA qui peuvent influencer sur les prix. Donc, on a ces différents facteurs. Ces différents facteurs vont influencer les prix, effectivement, sur l'ensemble des pays industrialisés émergents. Et ensuite, l'importance relative de ces différents facteurs va dépendre des pays. Et donc, du coup, on va avoir à peu près le cumul de des effets assez importants aux États-Unis, un peu moins vrai en zone euro avec des effets de pétrole. Si on prend l'Allemagne, il y a l'effet de TVA qui se rajoute. Donc, on a des choses qui peuvent être ensuite un peu disparates, mais derrière, tous ces ingrédients sont là et sont effectivement la conséquence de l'épidémie et de la reprise telle qu'elle s'est engagée depuis la mi-2020 et qui se traduit en termes de prix depuis à peu près le printemps.
Anne-Sophie Alsi, vous partagez ce constat ?
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est tout à fait étonnant et nouveau, c'est vraiment le côté, en effet, mondial et surtout en même temps. C'est-à-dire que le monde entier a arrêté et le monde entier repart en même temps. Donc, c'est vrai que ce côté masse et cet aspect temporaire eh bien fait que vous avez, en effet, une surchauffe, on va dire, de l'économie et, en effet, eh bien, une dichotomie entre l'offre et la demande qui fait qu'on est dans cette situation inflationniste qui, en effet, on le pensait au tout début de la crise, devait être assez conjoncturel. Deux éléments quand même pour compléter ça, parce que je pense que c'est toujours bien de regarder ce qui s'est passé dans le passé et d'avoir de la mémoire économique. Ce dont on ne se souvient pas, c'est qu'avant la crise, on était dans une situation de très faible inflation. Et d'ailleurs, on cherchait l'inflation partout. Depuis la crise de 2008, on a eu des politiques monétaires très accommodantes et on se disait à chaque fois, attention, eh bien, il faut avoir de l'inflation. On essayait d'avoir ces fameux 2% d'inflation et malgré ces politiques toujours très accommodantes, eh bien, nous n'avions pas d'inflation. Donc, nous étions plutôt dans une autre situation. On avait même peur d'avoir de la déflation. Et c'est vrai qu'on était dans cette situation avant la crise. L'autre élément, c'est beaucoup de comparaisons par rapport, et les chiffres dont on parle, c'est souvent une comparaison par rapport à l'année dernière. Or, l'année dernière, je rappelle que nous étions en pleine crise Covid. Donc forcément, nous avions des taux d'inflation très bas et nous avions même eu, en 2020, un crash pétrolier. On s'en souvient moins bien, mais il y a eu beaucoup plus de ventes du marché, donc du pétrole sur les marchés, même à perte, parce que ça coûtait trop cher de stocker le pétrole et il y avait trop de stocks de pétrole par rapport à la demande. C'était la situation d'avant-crise. Donc c'est vrai que cette situation fait que là, on est dans un boom et on se dit, attention, on a des chiffres fous. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir en tête que c'est par rapport à l'année 2020 qui n'est pas une année normale. Donc il faut mieux comparer par rapport à 2019 et qu'on était avant-crise dans une situation où il n'y avait pas d'inflation. Donc tout d'un coup, on la retrouve et donc on est quelque part, on est plus très habitué à avoir de l'inflation, en tout cas d'avoir ces débats sur est-ce qu'il y a un risque de surinflation puisqu'on était plus dans cette situation. Et donc pour les banques centrales, il y a de nouveau la question de l'intervention ou pas pour freiner. Après, la problématique, c'est que le but, c'est vraiment la croissance, la reprise. C'est le meilleur atout pour se désendetter. Et donc, de fait, c'est vrai que l'idée, c'est même de laisser glisser cette inflation même au-delà des cibles pour ne pas casser de la reprise. Peut-être avoir après, en effet, si on remonte les taux dans un contexte où tout le monde est ultra endetté, donc où personne n'a intérêt à avoir une augmentation également des taux d'intérêt.
Après avoir dressé ce constat, qui sortirait gagnant de cette inflation ?
Alors, ça dépend toujours de quel point de vue, d'où on se place. Moi, je trouve que l'un des grands gagnants quand même de la situation de l'inflation, mais globalement, c'est quand même la Chine qui est quand même le grand gagnant de cette crise. Alors, on va me dire, c'est quand même paradoxal puisque c'est de ce pays dont est venu la crise. On voit que c'est un pays qui n'a pas été en récession en 2020, qui a eu 2% de croissance, qui a une croissance encore cette année très forte à 8%, même si on voit des ralentissements, notamment en raison des crises de pénurie. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette crise a mis en exergue vraiment la spécialisation productive de la Chine et comment ils ont revu leur processus productif en mettant vraiment, entre guillemets, le paquet sur leur consommation intérieure et donc en privilégiant vraiment le consommateur chinois. Et donc, ils profitent de cette reprise, ainsi que dans la zone. Et puis, l'autre élément, c'est vraiment leur diversification énergétique, hein, avoir pris justement beaucoup de positions, et on sait qu'on nous écoute là-bas sur le continent africain, qui leur a permis d'avoir un prix de l'énergie importée plus faible que ce que l'on peut voir par exemple aux États-Unis et en Europe, qui sont encore des économies très fossilisées, et donc qui sortent globalement assez gagnants, une très forte croissance, une inflation maîtrisée et de bonnes perspectives.
Alors, on se place de quel point de vue des États, des entreprises, des consommateurs pour savoir qui sort gagnant là de cette période, Christophe Blot ?
Bah, effectivement, l'inflation, c'est un effet sur le pouvoir d'achat des ménages directement. Donc, les ménages vont être et sont d'ailleurs touchés par cette évolution des prix, notamment parce que aujourd'hui, alors même s'il faudra nuancer sans doute un peu après, cette inflation, elle est vraiment liée à des conditions notamment d'offre, de prix du pétrole et pas à une inflation alimentée par la dynamique des salaires. Même si on peut voir potentiellement par exemple aux États-Unis, une accélération un peu des salaires. Donc aujourd'hui, en fait, les prix augmentent, mais ça se traduit pas encore, ou ça se traduit pas sur les salaires. Et la question de savoir si cette inflation est durable, qui est vraiment un point sur lequel il y a un débat aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce soit pas un phénomène temporaire, dépendra justement de est-ce que cette reprise, elle s'accompagne d'une diminution rapide du chômage un peu partout, et donc elle entretient une dynamique de croissance qui va redonner finalement du pouvoir de négociation aux salariés, qui va leur permettre aussi à eux de finalement de réclamer des hausses de salaire. Et là, potentiellement, alors c'est à la fois important parce que ça permet de préserver leur pouvoir d'achat, mais aussi, ce sera aussi le facteur qui nous déterminera si s'enclenche ce que les économistes appellent une boucle prix-salaire. Et c'est ça qui est un peu au cœur des mécanismes qu'il faudra surveiller dans les prochains trimestres. C'est est-ce que finalement cette conjonction d'effets d'offre, d'accélération de la croissance mondiale s'accompagne aussi de tensions éventuellement sur les salaires qui peuvent prolonger l'inflation. Et ensuite, savoir à quel niveau on prolonge l'inflation. Si le phénomène a tendance à s'amplifier, effectivement, ça devient problématique. Si on retourne globalement sur une inflation entre, on va dire, peut-être 2 et 4%, les chiffres, on peut les discuter, c'est pas fondamentalement un grand problème pour l'économie, si derrière, effectivement, c'est à peu près 2 à 4% à la fois d'inflation, mais aussi de salaire.
Alors, votre point de vue, par exemple, Anne-Laure Delatte, de savoir si cette inflation est durable, transitoire ?
Alors, pour l'instant, tout le monde s'accorde sur le fait que c'est plutôt transitoire. C'est-à-dire, tout le monde sait que si vous regardez les marchés financiers, les investisseurs, on a vraiment une façon de voir les anticipations des investisseurs dans les taux qu'ils exigent quand ils prêtent de l'argent, notamment aux États. Et les investisseurs aujourd'hui, quand ils prêtent à 10 ans, ils ne demandent pas une prime d'inflation. En fait, les taux de long terme, de 10 ans, n'ont pas intégré des anticipations d'inflation. Donc du côté des investisseurs et des marchés, on n'anticipe pas un changement de régime. On est plutôt sur quelque chose de transitoire. Transitoire qui peut durer un peu, mais pas du tout quelque chose...
À quelle échéance ?
Alors, c'est toutes les difficultés de cette crise, mais qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire 6 mois, 18 mois, je n'en sais rien, et d'ailleurs personne n'en
et
sait
personne autour
quelque
de cette
chose.
Table.
Voilà. Après,
juste... même à peu près le même ordre de grandeur, mais voilà, avec voilà, la même incertitude.
Ouais. Après, du côté des banques centrales, c'est pareil, pour l'instant, leur action reste extrêmement limitée. Dans le sens, elles ont une action hyper expansionniste qui fait que justement, on a l'impression qu'elles n'ont pas du tout peur d'une reprise de l'inflation. Elles sont même hyper vigilantes à ne pas casser la croissance dans l'œuf, parce que en 2013, en fait, après la crise de 2008, il y a vraiment eu des erreurs de fait de ce point de vue-là. On a réaugmenté. On a réduit l'action des politiques monétaires de façon un peu trop rapide et ça a cassé la croissance. Là, vraiment, l'idée, c'est de dire on y va extrêmement tranquillement. On a des chiffres qui ne nous affolent pas. On a plus de 5% d'inflation aux États-Unis. On a plus de 4% ou 3,5% en Europe. Mais pour l'instant, on ne s'affole pas.
8% aujourd'hui, là, c'est le chiffre en Russie.
Oui, mais alors pour l'instant, on ne s'affole pas parce qu'en fait, comme le disait Christophe, il y a une composante énergétique énorme. En fait, la moitié de l'inflation, elle est liée à ces prix de l'énergie. Donc, c'est quelque chose que pour l'instant, les politiques monétaires ne peuvent pas gérer.
Dans ce sens-là, est-ce que des États ont intérêt à créer des pénuries d'énergie ou pas ?
Alors non,
Anne-Sophie Alsif.
pas créer des pénuries, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie problématique sur l'énergie. Là, en effet, on le voit, la majorité, notamment en Europe, de l'inflation, c'est vraiment sur l'énergie. Alors, on a eu ces hausses du prix du pétrole, mais après, les crashs qu'on a connus. Donc là, en effet, ça risque d'être conjoncturel. On le verra au bout des deux ans, fin 2022, quand l'effet rattrapage sera un petit peu fini. L'inquiétude, à mon sens, c'est beaucoup plus, par exemple, sur l'électricité ou vraiment les autres énergies où là, on doit vraiment diversifier et décarboner l'économie, où il y aura ce temps de transition pendant 10 ans où tout le processus productif des entreprises va devoir justement muter, les ménages également, et là vous allez avoir une très forte demande de ces énergies autres que fossiles, et c'est pour moi en ça que cette inflation et notamment sur l'énergie peut rester plus élevée sur cette composante-là, parce que retirer après le pétrole, il y aura une très forte demande dans ces autres sources d'énergie en raison de la transition écologique, et là ce sera une vraie question pour les États.
Y a-t-il une main visible ou invisible qui tire les ficelles de cette inflation, Christophe Blot ?
Non, il n'y a pas forcément de main invisible ou visible. Ensuite, c'est aussi la résultante potentiellement de ce qu'on disait tout à l'heure, de choix de politique économique qui ont été faits pendant la crise, qui étaient de préserver à peu près le revenu des ménages. Et aujourd'hui, quand les restrictions sont levées, ça se traduit par effectivement un rebond de la demande. Et comme en même temps, il y a eu ces contraintes un peu sur les chaînes de production, on a ce petit frottement qui crée de l'inflation. Donc, est-ce que ce frottement sera durable ou pas durable ? C'est toute la question centrale, effectivement, et à laquelle on n'a pas une réponse si bien identifiée que ça. Ensuite, derrière potentiellement ça, il y a la question des choix de politique économique. Et si on en revient peut-être encore une fois aux États-Unis, parce que c'est là où les tensions sont peut-être parmi les pays industrialisés aujourd'hui les plus fortes, mais elles sont aussi probablement un effet d'un débat important aux États-Unis, notamment sur les plans de relance proposés par Biden dès son arrivée au pouvoir, et de savoir si finalement la politique budgétaire voulue par Biden allait alimenter de la surchauffe. Et donc aujourd'hui, comme on voit l'inflation qui augmente, on peut se dire finalement oui, ça alimente de la surchauffe. Alors dans le débat, c'était est-ce que cette surchauffe peut être plus durable. Et derrière, je pense, cette stratégie américaine et cette politique budgétaire qui a été très expansionniste, c'est-à-dire qu'ils ont fait, globalement, ils ont largement plus soutenu le pouvoir d'achat des ménages et l'économie que l'ensemble des pays européens. Derrière ça, il y a aussi, effectivement, potentiellement, il y a plein de raisons, mais il y a un des éléments qui est de dire, sur les 10 dernières années, quasiment, aux États-Unis, mais probablement, et dans la zone euro aussi, on n'arrivait pas à retrouver la cible d'inflation. D'accord ? Et on était, en quelque sorte, englué dans ce risque déflationniste qui s'installait durablement. Et donc, en faisant le choix d'avoir une politique budgétaire très expansionniste, au risque d'en faire un peu trop, l'idée, c'est peut-être qu'on en fait un peu trop, mais on va essayer au moins de sortir cette fois-ci un peu plus rapidement et durablement de cette crise. Donc on peut espérer qu'on en est là et que si ça marche, effectivement, on sera sorti de la crise, on aura un rebond de l'inflation potentiellement temporaire et il aura gagné son pari. S'il y a de l'inflation effectivement plus durable, au-delà de 5% pendant 2-3 années, on pourra dire qu'effectivement, il en a fait trop.
À qui profite cette crise ? Peut-on faire le lien avec les bourses mondiales qui continuent de monter, Anne-Laure Delatte ?
Oui, alors en fait, ça prolonge ce que vient de dire Christophe Blot, c'est-à-dire que on a eu une combinaison de politiques monétaires extrêmement expansionnistes et de politiques budgétaires de soutien un peu plus modestes en Europe, mais quand même, on a eu d'énormes soutiens. Et en particulier, qu'est-ce qui a permis ça ? C'est vraiment l'action coordonnée des banques centrales qui a consisté à inonder le marché de liquidités. Et en fait, la manifestation directe de ça, ça se voit dans l'inflation, mais pour le coup du prix des actifs. Et ça, c'est un effet secondaire qui est à moitié maîtrisé. C'est-à-dire que, en réalité, il y a de la littérature économique là-dessus. On sait aujourd'hui que ce qu'on appelle la politique monétaire non conventionnelle, c'est-à-dire quand le bilan de la Banque centrale augmente concrètement, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, la Banque centrale européenne achète la moitié de la dette émise par la France, par exemple. Un euro sur deux qui est émis par la France, c'est la Banque centrale qui l'achète. Et donc, en fait, on a cette inflation du bilan de la Banque centrale qui se traduit directement sur le prix des actifs. Parce qu'en fait, ça soutient le prix de la dette publique, mais ça soutient aussi tout le reste de la chaîne des produits financiers et en particulier des actions. Et donc, alors vraiment, En fait, on est dans un monde qu'on a du mal à comprendre. Hein. Aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on le dise, c'est-à-dire qu'on a des changements de régime partout. On est dans un moment de bifurcation très important, à la fois parce qu'il y a un changement climatique, là, maintenant, je crois qu'on peut le mesurer tous, mais aussi, donc ça se traduit par des prix qu'on n'arrive pas complètement à analyser. Et pour pallier à tout ça, il y a un acteur qui est devenu incontournable, c'est les banques centrales. Les banques centrales donc agissent parce que les États, en particulier en Europe, n'agissent pas, ne font pas assez de budgétaire. Et ça se traduit notamment par des bourses qui montent et qui peuvent avoir des effets sur les inégalités de patrimoine.
Anne-Sophie Alsif.
L'autre élément aussi, c'est en effet, il y a toute cette liquidité massive qui est injectée. Et après, c'est quelles conséquences, notamment quelles conséquences pour l'économie réelle. Et ce qu'on a pu voir, on l'a dit, grâce au quoi qu'il en coûte, les ménages ont eu un fort taux d'épargne. Alors, on va normalement, même les projections de 2022-2023, on devrait être un petit peu au-dessus de ce qu'on avait avant la crise. La question, c'est qu'on a tout cette épargne, donc qui est le produit de cette politique budgétaire très accommodante, et où va cette épargne? Cette épargne, malheureusement, va aujourd'hui majoritairement dans de l'achat de dettes ou dans l'immobilier. Et il y a derrière, en fait, toute la problématique. Alors, il y a cette survalorisation de certaines actions en bourse, en effet, qui sont vraiment décorrélées de l'économie réelle, parce que, justement, il y a cet enthousiasme, notamment dans ce qui concerne toutes les valeurs numériques. Mais il y a l'idée, derrière, d'avoir toute cette liquidité, et ça peut être une très bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est qu'on se dit, eh bien, il y a ce changement climatique qui va demander énormément d'investissements pendant les 10 prochaines années. On a ce contexte très favorable de taux très bas et de liquidités très importantes. Donc, ça peut être vraiment l'opportunité de financer, justement, ce changement. Par contre, est-ce que cet argent va vraiment, justement, à l'innovation, va vraiment aux entreprises et vraiment au progrès technique au sein des entreprises? Là, la question, eh bien, la réponse, en tout cas, est plus mitigée. Et c'est ça, un petit peu, le risque, c'est d'avoir énormément d'actifs qui doit trouver eh bien des endroits où aller, que ce soit en effet les bons du trésor, que ce soit l'immobilier et que ce soit pas de l'investissement productif. Et c'est là, à mon sens, où il y a vraiment le risque en Europe, notamment par rapport aux États-Unis ou en Chine, où c'est beaucoup plus le cas. Et dans cette rupture technologique, parce que là, c'est vrai qu'on parle de la situation d'après-Covid, mais là, l'idée, c'est de dire les 10 prochaines années sont absolument fondamentales pour savoir qui seront les gagnants et les perdants de ces transitions, en termes notamment de gains de productivité. Donc, c'est vraiment très, très important d'utiliser cet argent pour investir, mais d'investir dans le productif et non pas que dans l'immobilier ou dans de la dette.
Vous avez parlé tout à l'heure là de crise, Christophe Blot. Ne faudrait-il pas encadrer l'inflation, le prix, les prix? Y a-t-il des plafonds? Est-ce qu'on peut légiférer sur cette question? Quel est votre point de vue en tant qu'économiste?
Ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que l'inflation, c'est quelque chose de très large. Donc on parle d'inflation, c'est l'augmentation du niveau général des prix. Donc derrière le niveau général des prix, il y a tout un tas de prix. Donc la question de savoir, c'est qu'est-ce qu'on encadre? Est-ce qu'on encadre l'ensemble des prix? Ça demande...
C'est une vraie question.
Voilà, c'est une vraie question, mais du coup, c'est probablement un vrai défi que de pouvoir encadrer l'ensemble des prix. D'accord? Il y a certains prix qui sont encadrés. Par exemple, l'évolution du prix des loyers, c'est quelque chose qui est encadré. Mais effectivement, à quelques exceptions près, les prix sont fixés librement. Je crois que la question est, il me semble que si on encadre les prix, potentiellement, on va masquer les déséquilibres qui peuvent exister. Et donc, c'est pas forcément la bonne façon de corriger les déséquilibres quand on cherche à les masquer. Il vaut mieux plutôt mettre au jour ces déséquilibres. Ensuite, il peut y avoir, effectivement, ponctuellement, il peut y avoir une utilité, une importance d'encadrer certains prix. Le cas des loyers, ça me semble être notamment assez justifié. Mais avoir une action globale sur le niveau des prix me paraît plus risqué que bénéfique.
Anne-Laure Delatte.
Ouais, en fait, le régime économique dans lequel on est depuis 40 ou 50 ans, c'est que tout à peu près est déterminé sur le marché. Donc, comme vient de le dire Christophe, les prix ils sont libres à peu près partout. Maintenant, la façon dont on gère ça aujourd'hui, vous voyez très concrètement, c'est le chèque énergie du gouvernement. C'est-à-dire que...
En France... 100 euros pour 38 millions de Français.
Tant que ça? 38 millions de Français. Bon, alors, je vous laisse dire, je connaissais pas le chiffre, mais en tout cas, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir, à cause de cette transition climatique, de l'ensemble des chocs extrêmes qu'on va subir tous dans les prochaines années, de la volatilité sur les prix, notamment de l'énergie, mais aussi des prix qu'on ne peut pas anticiper pour l'instant, parce qu'on ne sait pas toujours la nature des chocs qui vont arriver. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir moins des réponses d'encadrement de prix, parce que effectivement, on sait très bien que ça ne marche pas. En revanche, vous allez voir de plus en plus normalement des politiques publiques qui vont tâcher de compenser l'effet de ces chocs sur les populations les plus vulnérables. En tout cas, c'est ce qui est souhaitable. Et là, c'est exactement ce qui est fait aujourd'hui. Alors après, il y a des gens qui vous diront que ça n'est pas suffisant. Mais en tout cas, ça n'est pas les prix, c'est plutôt les conséquences de ces chocs-là. Sur le pouvoir d'achat des personnes les plus vulnérables qu'on va essayer de gérer.
Il y a vraiment deux éléments. Donc, il y a cette inflation qu'on ne sait pas si elle sera longue ou pas. Et donc, là, on aura en effet une augmentation des prix qui est vraiment due à l'énergie. Donc, là, à mon sens, au niveau du pétrole, ça pourrait aller, mais c'est vraiment au niveau de toutes les autres énergies où il faudra s'inquiéter, trouver des solutions. Et puis, il y a vraiment cette transition écologique qui va faire que vous allez avoir, j'aime pas redire de la relocalisation, je crois plutôt à la réindustrialisation, mais en tout cas, de nouveaux coûts qui vont apparaître. Alors, le coût carbone, de nouvelles normes, le coût de transport. Et donc, forcément, toujours dans cette période transitoire qui sont ces 10 prochaines années, j'y tiens, eh bien vous allez sûrement avoir une augmentation des prix des biens manufacturiers dus au réchauffement climatique parce que vous aurez de nouveaux coûts pour les entreprises qui devront être un jour retranscrits dans le prix. Donc ça, en effet, ça aura un impact pour le consommateur. Je rappelle que depuis 30-40 ans, on a fortement augmenté notre pouvoir d'achat grâce à la pénétration des produits chinois justement à plus faible coût. Ça nous a permis d'avoir accès à beaucoup plus de produits, de voir beaucoup plus de baisses de produits, notamment dans l'électronique, tout un ensemble de biens manufacturiers. C'est vrai que ces 10 prochaines années, on va plutôt être peut-être dans la tendance inverse, avec peut-être des coûts, mais là on ne parle pas d'inflation conjoncturelle, on parle vraiment d'une transition économique et donc une augmentation des biens manufacturiers.
Et d'ailleurs pour le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, il insiste sur ce moment à saisir, c'est maintenant ou jamais pour les réformes structurelles régulièrement demandées par Bruxelles pour adapter les économies, notamment ce que vous disiez, les transitions vertes et digitales. Vous partagez également cet avis, Christophe Blot?
Alors ça dépend ce qu'on met derrière les réformes structurelles. Je pense que si on parle d'investissement pour effectivement favoriser cette transition, oui, ça me paraît être effectivement, comme on l'a souligné juste avant, un point essentiel. Et donc aujourd'hui, il y a de l'épargne qui est abondante. La question, c'est de savoir comment on peut l'utiliser. La difficulté, c'est que ces investissements, probablement qu'il faut qu'il y ait des investissements privés, mais ça va aussi assez fortement reposer sur de l'investissement public. Et donc la question de la poursuite d'une coordination assez forte entre les différents acteurs, entre la politique monétaire menée par les banques centrales et les gouvernements qui vont pouvoir mettre en œuvre ces politiques publiques d'investissement dans la transition énergétique, va rester cruciale pour tous les enjeux effectivement de répartition, d'inégalité et de capacité finalement à gérer les conséquences des chocs à venir pour les ménages ou pour les entreprises.
En guise de conclusion, vous percevez ce décalage entre tout ce qu'on vient de dire et puis parfois ce qu'on appelle le grand public, comme si on ne voit pas les retombées économiques arriver?
Oui. En fait, peut-être pour conclure, l'inflation, c'est un phénomène moyen. En fait, on fait une moyenne des prix. Et là, aujourd'hui, il me semble qu'il est vraiment essentiel qu'on aille regarder ce qu'on appelle la désagrégation, c'est-à-dire vraiment les situations individuelles. Donc, pour le dire très simplement, en moyenne, finalement, ce phénomène d'inflation, il n'est pas si alarmant. Il n'alarme personne, en tout cas dans les autorités. En revanche, probablement que 10 à 20% des Français le sentent, mais de façon extrêmement violente, dans leur quotidien. Donc il faut vraiment détacher le phénomène moyen, qui ne devrait pas nous alarmer, en tout cas pour l'instant, d'un effet sur le pouvoir d'achat des plus démunis, des plus vulnérables, d'où l'importance des politiques publiques pour compenser ça.
Et vous aussi, vous vivez cette incompréhension parfois qu'il y a entre les économistes et le grand public?
Oui, tout à fait. C'est vraiment, et l'inflation, c'est l'indicateur qui le montre tout à fait. On parle de l'indicateur, l'inflation réelle et l'inflation ressentie. Et c'est vrai que dans notre revenu, c'est vrai que l'énergie est considérée comme l'alimentation, comme des choses de base. Et on n'a pas envie d'utiliser tout son revenu à cela. On préfère l'utiliser en effet à d'autres biens culturels, de divertissement ou autres. Et c'est vrai que quand ça réapparaît, notamment l'énergie, on a vraiment une sensation de baisse de pouvoir d'achat, quelles que soient les catégories, que ce soit vraiment les personnes qui sont en difficulté ou celles qui le sont beaucoup moins. Donc c'est vrai que la hausse des prix de l'énergie, ça a vraiment un impact sur le ressenti qu'on peut avoir, même si les chiffres économiques montrent l'inverse. Et c'est quand même très important à avoir en tête pour que les politiques économiques soient efficaces.
Et ce sera le mot de la fin, signé Anne-Sophie Alsif, chef économiste au BDO, cabinet de conseil. conseil économique. Merci également à Anne-Laure Delatte, économiste chercheuse au CNRS et autrice du podcast Un Shot d'écho. Merci également à Christophe Blot d'être venu jusqu'à nous, économiste à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. C'est la fin de cette émission réalisée ce soir par Laurent Philippot, coordination Arnold Assewa, rédaction en chef Patrick Adam, documentation Simon Carteret. À demain, même heure pour un nouveau débat, cette fois-ci présenté par Romain Ozoui. À suivre dans quelques instants, un nouveau journal. La